marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Faut-il le lui dire, mes amis ?
Oui.
Le théâtre est un lieu qui vous arrache à vous-même.
La France rêvée de Jean Giraudoux.
C'était le 14 juillet. Les drapeaux à la fenêtre le matin et les chevaux de bois qui tournent autour de l'arbre de la liberté. C'était la foire et le sommeil troublé par des meuglements, des hennissements. C'était la Sainte-Hortense, c'était le 15 août, brûlant de soleil et sonore comme des chapelles désaffectées. C'était une faillite. C'était un incendie dévorant le hall de l'hôtel, mais tout cela est ruine et fête nationale et le feu lui-même. Nous l'approchions sans en souffrir.
De la France, il aimait toutes les saisons et particulièrement le printemps. À Paris, il le voyait se pousser jusqu'à la Seine. Seuls les ponts étaient encore sans feuillage. Dans les arbres montait la sève. Les percepteurs, le jour, commençaient à envoyer des déclarations d'impôts et la nuit tentaient de se souvenir des noms et des prénoms des contribuables afin de ne pas faire de confusion. Ces fonctionnaires étaient la gloire et la douceur de la France. Le matin, les volets des bourgades qui avaient la chance de voir passer les trains s'ouvraient pour attendre le prochain. Ce pays accompli savait comment la vie doit être aimée. Diplomate, Giraudoux avait fait beaucoup de voyages. Le romantisme allemand et le modernisme américain étaient ses horizons, mais au centre de son univers se tenait la France, et au centre de la France du centre. N'était-il pas né à Bellac en 1882 ? Que ne promet la vie quand du haut d'une colline on aperçoit les becs électriques de Bellac ? D'ailleurs, tous les noms de la France l'enchantaient. Il aimait les embrouiller par jeu. Ô Béarn, capitale Orléans. Ô Compiègne, chef-lieu Albi. Tout aurait pu fonctionner à merveille. Mais pendant les années 30, Giraudoux voit la guerre venir et craint que dans la balance nouvelle des forces, les Français soient trop légers. Nommé commissaire à l'information, en juin 1939, il tient son rôle d'annoncier sérieux de la mission du pays. Puis, c'est la déferlante. Les noms de la France vont encore être mêlés, mais par l'exode. Ceux du Nord se retrouvant au fond du sac dans le Sud. Giraudoux est mort peu avant la libération. La France d'après le célébrera comme celui qui peut faire le lien avec le bonheur d'avant. Jusqu'à ce que, dans les années 1970, certains commencent à dire « Les beautés de Giraudoux dissimulent bien des laideurs. La France de l'harmonie ne déteste pas les procès. Faudra-t-il rendre justice à Giraudoux ?»
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En tout cas, des pièces à conviction sont fournies par vos soins, André Job. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Et par ceux de Sylviane Coyot et d'une soixantaine de contributeurs, vous publiez en deux volumes un dictionnaire Giraudoux. Votre rapport à Giraudoux, avant ces 6 ans de travail en commun ?
En général, on tombe très jeune, tout jeune, dans la marmite de la potion magique Gérald Lucienne. Ça se passe comme ça. Oui, c'est un rapport très ancien, même si je lui ai fait quand même quelques infidélités pour Coltès.
Bernard-Marie Coltès, figure importante du théâtre. On va commencer à la lettre B et pas à la lettre T. À la lettre B comme, allez, Bellac. Alors Bellac aujourd'hui c'est en Nouvelle-Aquitaine, c'est ainsi qu'il faut dire. Et regardez dans le dictionnaire des communes, c'est le même nombre d'habitants qu'au moment de la naissance de Giraudoux, 4500 habitants. Enfin la Nouvelle-Aquitaine, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est, on est au centre de la France.
Oui, alors s'il y a le même nombre d'habitants, ça confirme en tout cas le caractère immuable de la France giraldusienne. On est au centre. Alors on est au centre, ça veut dire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il arrive souvent à Giraudoux de jouer avec le point, le village, le monument, la pierre qui marquerait très exactement le centre de la France. Et par exemple, il est très content de voir quand on récupère l'Alsace-Lorraine que la France a retrouvé son centre. Alors que veut dire ce genre de jeu ? Il y a comme toujours chez Giraudoux derrière le jeu beaucoup de sérieux. Le le centre chez Michelet, c'est ce qui organise l'ensemble de l'hexagone, de cette forme idéalement hexagonale de la France. En quelque sorte, ça absorbe tout. Il faudrait que tout se concentre, que tout se rassemble au centre. Peut-être pas à Bellac, enfin, on va de là monter de Bellac à Paris, bien sûr, pour trouver un centre culturel qui soit aussi un centre international. Alors, il y a évidemment une représentation imaginaire de la France chez Giraudoux. Il faut faire un peu d'histoire. Vous êtes bien placé pour le faire, puisque vous avez cité dans cette même émission plusieurs fois la fameuse phrase d'Ernest Lavis. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Et vous avez dû évoquer aussi, j'en suis sûr, un jour, le fameux manuel de lecture du cours moyen devenu manuel d'instruction civique pour trois générations, le tour de la France par deux enfants. Eh bien, le petit Lavis, le tour de la France par deux enfants, ce sont, si j'ose dire, les deux mamelles de Giraudoux.
Alors, dans le Tour de France par deux enfants, les deux enfants arrivent toujours au bon moment, vous voyez, quand le verre à soie éclos. Et ici, nous sommes encore à Bellac, et nous sommes au bon moment, parce que voici Claude Riche qui surgit, mon Dieu qu'il est beau.
L'Apollon de Bellac.
L'Apollon de Bellac?
Oui, il n'existe pas. C'est moi qui l'extrais en ce moment à votre usage, du terreau et du soleil antique, personne ne vous le contestera.
Comment est-il?
Un peu comme moi, sans doute. Je suis né à Bellac, c'est un bourg du Limousin.
On dit que les Limousins sont laids. Comment se fait-il que vous soyez si beau?
Ah, mon père était très beau.
À Bellac, on se laisse conduire par la faim et la soif, la fatigue et le sommeil, seul marais des campagnes, et par tout ce qui dilate et rassemble une famille autour de sa maison ou de sa ferme. La courroie qui unit les deux repas, le rideau qu'on tire le soir... Tout fonctionnait à merveille.
Là, nous sommes dans le premier roman de Jean Giraudoux, avec un personnage de jeune fille, Giraudoux, écrit au féminin. C'est Suzanne et le Pacifique. Mais alors, attendez, parce que le rêve, la réalité, la féerie et la terre, tout ça se mêle. Il y a des marais dans les campagnes. Et là, on est dans une île, dans Suzanne et le Pacifique.
Oui. On est aux antipodes, parce que le passage qui vient d'être lu est un peu trompeur, si j'ose dire. Tout semble être pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Eh bien non, parce qu'il faut toujours tenir compte d'abord de l'ironie ou de l'humour de Giraudoux, cette vue un peu idéale de la France immuable, elle est chez lui toujours tenue un peu à distance, bien sûr. Puis il faut bien comprendre que si on est au début du roman, c'est la première vraie fiction de Giraudoux, effectivement, c'est parce que tout ce qui vient d'être dit va être contredit. Contredit d'abord par cette chose épouvantable qu'est le naufrage, et contredit ensuite, en fin de parcours, à la fin du roman, quand depuis son île, Suzanne se rendra compte qu'il y a la guerre. Alors il faut bien comprendre...
La guerre de 14-18...
La guerre de 14-18...
A participé.
À laquelle il a participé...
Dont il est un survivant.
Dont il est un survivant, à laquelle il a été blessé deux fois, sur le front de l'Aisne, ensuite aux Dardanelles, puis un an d'hôpital, etc. Et la guerre va revenir de façon obsédante, évidemment, dans toute son œuvre. Il faut bien comprendre que cette utopie insulaire qu'est Suzanne et le Pacifique fonctionne, si j'ose dire, au rebours de la guerre. Figurez-vous qu'on s'est aperçu, quand je dis « on », c'est pas nous, chercheurs, c'est un lecteur, mais un lecteur quand même particulièrement avisé, qui tient un très beau blog qui s'intitule Brume, qui faisait cette découverte que nous n'avions pas relevée dans l'édition de la Pléiade. Suzanne passe 4 ans sur son île. Ces 4 années, si on compte bien, compte tenu des repères de datation que peut nous fournir le livre, ce sont les années 1914-1918, figurez-vous. Et vous savez que, à la fin du livre, précisément, comment Suzanne va-t-elle renouer avec l'humanité quand elle va voir débarquer sur sa grève des cadavres de marins américains et allemands.
Les jeunes filles dans Giraudoux ne sont pas naïves, André Job. Ici, nous voilà revenus dans notre bourgade du Limousin, 1933, intermezzo. Oui, mais on a beau être attaché à la terre par des chaussures, on a le pied ailé. La jeune fille que voici, c'en est une autre, c'est l'institutrice, c'est Isabelle. Elle est attirée par la présence d'un spectre. Oui, parce qu'il y a un spectre qui est arrivé dans le village. Heureusement, un fonctionnaire, qui est un fonctionnaire idéal, sans titre. Contrôleur des poids et mesures. Tout est dans le mot mesure. Va servir d'adjuvant. C'est-à-dire que il va la relier à la terre qu'elle serait prête à quitter, mais lui-même a le pied ailé.
Le lyrisme de la vie de fonctionnaire n'a d'égal que son imprévu.
Votre vie comporte un imprévu?
Un imprévu de qualité rare, discrète, mais émouvante. Songez, mademoiselle Isabelle, que nous changeons tous les 3 ans à peu près de résidence.
Vous savez déjà dans quelle ville vous irez en nous quittant?
Je sais, et je ne sais pas. Je sais seulement que ce sera Gap ou Bressuire.
Votre pensée va vous balancer sans arrêt entre Gap...
C'est-à-dire les sapins, la neige, la promenade après le bureau au milieu des ouvrières qui ont passé leur journée à monter en broche l'étoile des Alpes...
Et Bressuire.
C'est-à-dire les herbages, c'est-à-dire, pensez si je le sais déjà par cœur, la belle foire du 27 août... Et qu'en septembre, rougit jusqu'au roseau des anguillères dans l'eau du marais vendéen, le départ en Victoria pour les courses au trot, à l'angle des rues du Guesclin et Général Picard.
Et à Gap, vous aurez ainsi 3 ans à attendre entre 2 autres villes.
Oui, entre Vitry-le-François et Domfront.
Entre la plaine et la colline.
Entre le champagne nature et le cidre bouché.
Entre la cathédrale Louis XIV et le donjon.
Et ainsi de suite.
Alors attendez, c'est pas parce que le fonctionnaire joue avec les noms de la France, qu'il faut que le fonctionnaire français en tire absolument une grande glorification. C'est, dites-vous, un fonctionnaire de l'humanité, au moins autant que de la France.
Oui, il faut bien comprendre que le lyrisme et l'imprévu de la vie du fonctionnaire, c'est ici un paradoxe. Il faut bien comprendre aussi, peut-être, que... Cette vie qu'on imagine grise, monotone, Giraudoux l'a trop bien connu à partir des petites fonctions qu'a pu occuper son père. Hein.
Percepteur.
Avant d'être percepteur dans des petits villages, il était, si je me souviens bien, conducteur de deuxième classe des travaux publics. Ouais. D'où la présence d'ailleurs de ces deux administrations dans ces textes. Il en connaît la monotonie, mais précisément le paradoxe consiste une fois de plus à réenchanter un réel par trop désenchanté. Vous savez, ça pose la question de savoir ce qui est dans le fond premier chez Giraudoux. Je ne crois pas du tout que ce soit l'enchantement. Je crois pour ma part que c'est plutôt le pessimisme. Giraudoux a des phrases très éclairantes là-dessus. Je crois que c'est quand il commente la grande scène d'explication entre Hélène et Andromaque dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Hélène. Et qui se rend compte qu'il n'y a rien à tirer de cette pauvre Hélène, qui a une vision très noire de l'existence. Alors il dit, mais oui, Hélène, c'est le désespoir. Mais il ne faut pas en rester au désespoir, il faut surmonter ce désespoir, il faut surmonter le pessimisme. Je crois que ça nous indique toute l'alchimie de l'œuvre.
Vous parlez de la guerre... Elle hante Giraudoux dans les années 1930. Il craint que la France ne soit trop légère. Elle va éclater sous la forme de l'invasion allemande après la Drôle de Guerre au printemps. Dans Intermezzo, Poulenc avait composé un morceau sur le printemps que voici.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Après qu'on a entendu Jean-Christophe Benoît, l'orchestre était dirigé par Georges Prêtre. Saluons une nouvelle fois les deux volumes du dictionnaire Giraudoux qui vient de paraître chez Honoré Champion avec Sylviane Coyot et André Job qui est notre invité comme maître d'œuvre. Oui, alors moi j'avais intitulé l'émission La France rêvée. On va bientôt parler de la guerre et du rôle qu'a joué Giraudoux. Vous n'aimez pas ce qualificatif, la France rêvée?
Ça me laisse un peu rêveur, je dirais, parce que Giraudoux a prêté le flanc assez vite à un certain nombre de critiques. Est-ce qu'il a rêvé la France, Giraudoux? La critique, on la voit prendre tout de suite. Il y a chez lui une sorte de soupçon de naturalisation de l'histoire.
Oui, la France harmonieuse.
La France harmonieuse, la France équilibrée. En nous peignant les personnages comme le contrôleur, il s'arrête sur des habitus français, c'est-à-dire des constantes ou des points de fixation dans nos conduites. L'affaire en réalité est plus complexe, je crois, parce que directement ou indirectement, Giraudoux est aussi l'héritier de Michelet. Or, Michelet considère la France comme un corps et comme une personne, c'est-à-dire comme une personne vivante. Et je crois que c'est exactement comme ça que Giraudoux la considère. On lit ça encore jusque dans son dernier texte, hein, Sans pouvoir, quand il réaffirme face à l'adversité, l'occupation, le principe toujours agissant de la vie française.
Alors quand on fait appel à lui, nous sommes au printemps 39. Avant la défaite du printemps 1940, il accepte le poste de commissaire à l'information, coordonnant à l'hôtel Continental, où il a son administration, les activités de propagande du pays. Il s'est toujours occupé de la propagande de la France, notamment dans la diffusion dite culturelle française à l'étranger. C'est un poste auquel lui a succédé Suzanne Borel, Suzanne Bidault, que voici, qui juge de façon nette de l'action en 39-40 de Giraudoux à son poste.
J'étais le dernier des hommes à pouvoir s'occuper de ce genre de choses. On a dit qu'il était trop intelligent pour ça. Mais Goebbels était très intelligent. Seulement, il savait que c'était pas avec des fils ténus et précieux. On n'a pas le même langage pour écrire des romans comme ceux qu'il a écrits et pour donner des ordres à des subordonnés, n'est-ce pas? Par conséquent, il n'a pas fait son métier et il n'a pas senti ce qu'il fallait faire.
Il fallait être un marteau-pilon en face d'un autre marteau-pilon. On a reproché à Giraudoux de n'émettre que le son de la flûte. Cependant, quand on écoute à la radio cette intervention, novembre 1939, elle n'a peut-être pas eu son effet immédiat, mais quel écho aujourd'hui.
Qu'est-ce que la propagande pour l'Allemagne ? Jadis, au temps où il n'existait ni télégraphe, ni téléphone, ni téléphotographie, ni télévision, au temps des nouvelles lentes, les armées et les peuples s'affrontaient eux-mêmes dans leur vérité et leurs forces seules décidaient. L'Allemagne, la première, a compris l'intérêt pour une nation avide de conquêtes, acharnée à supprimer ses rivaux, du maquillage de ses moindres actes. Par l'achat dans l'univers entier de postes d'écoute ou d'émissions, par la manœuvre d'agents d'élite, par la mobilisation des Allemands du dehors, par l'excellence de ses appareils et de ses méthodes, par la fulgurance de ses informations, elle a équipé l'univers pour que personne, fût-ce au fond du Tibet, ne puisse dérober aux nouvelles qu'elle donnait d'elle-même. J'ai traversé voilà un an des pays arabes où l'on ignorait encore que Napoléon était mort, mais pas un geste de Hitler qui n'y fut connu dans la minute même. Une résonance germanique a été créée par elle dans les ondes, autour des câbles. Elle a basé son action de propagande sur l'exploitation de cet équivoque, que les nouvelles les plus rapides sont les meilleures, les documents arrivés les premiers, les seuls sûrs, et que là où est la vitesse, la justice passe en second.
Quelle force dans ces deux dernières phrases, André Job.
Oui, mais Giraudoux, effectivement, avait exercé toutes les fonctions. Chef du service des œuvres, chef du service de presse aussi, en liaison avec la propagande. Il avait suffisamment voyagé, non pas seulement en Allemagne, mais aux États-Unis, pour constater cette puissance extraordinaire des médias, dont on se faisait encore une idée très approximative en France. Et alors Giraudoux n'aime ni la publicité ni la propagande. Il ne s'enthousiasme pas comme Apollinaire ou les surréalistes en face de la publicité, parce qu'il pense que tout ça mutile en quelque sorte la chair de la vie. Giraudoux, en tant qu'écrivain, recherche un langage sensible. C'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher, d'ailleurs, du temps du commissariat à l'information, c'est d'avoir cherché à toucher ses concitoyens. Je ne suis pas sûr, effectivement, qu'il ait eu les qualités de chef requises, d'autant qu'en plus, c'est même pas lui qui exerçait la censure, c'était les militaires qui s'en chargeaient, et on lui laissait la charge de quelques discours un peu émollients et de circonstances.
La défaite va l'atteindre au plus profond, André Job. Vous dites, il se dédouble, c'est un homme du dédoublement. Il est réfugié, plus qu'à Paris, à Cusset, non loin de Vichy. Il a peu de contact avec Vichy. Son fils est dans la France libre. Il préférerait ne pas avoir les Français tels qu'ils sont. Il n'est pas résistant avec des actions de résistance. Vous parlez de résistance intérieure. Et à la Libération, tout le monde le considère quand même comme le symbole de la France d'avant qu'il faut retrouver. Et un grand gala est donné pour l'avant-première de La Folle de Chaillot. Une pièce posthume. La première interprète, c'est Marguerite Moreno. Voici Edwige Feuillère. La Folle de Chaillot règne dans les entrailles de Paris que des spéculateurs voudraient fouiller pour y trouver du pétrole. Et elle essaye de s'informer sur ce qui se passe en surface, où c'est la désolation.
Comtesse, le monde file un mauvais coton.
Quelle est cette histoire ?
Il y a une invasion, comtesse. Le monde n'est plus beau, le monde n'est plus heureux à cause de l'invasion.
Quelle invasion ?
C'est une invasion, comtesse. Autrefois, quand vous circuliez dans Paris, les gens que vous rencontriez étaient comme vous. C'était vous. Ils étaient mieux vêtus ou plus sales, contents ou en colère, pingres ou généreux, mais comme vous. Vous étiez soldat, l'autre était colonel. C'était tout. C'était de l'égalité. Mais voilà 10 ans, un jour, dans la rue, le cœur m'a tourné. Entre les passants, je voyais un homme qui n'avait rien de commun avec les habituels. trapu, bedonnant, l'œil droit crâneur, l'œil gauche inquiet, une autre race. Il marchait bien au large, mais d'une drôle de façon, menaçant et pas à l'aise, comme s'il avait tué l'un de mes habitués pour prendre sa place. Il l'avait bien tué, c'était le premier.
Le général de Gaulle est à l'avant-première. Tout le monde applaudit. Pendant les années 50 encore, Giraudoux, qu'on pense au livre de Chris Marker, dans la collection Les Écrivains par eux-mêmes, est considéré comme un écrivain rassembleur. À partir de 1970, ce passage, par exemple, de La Folle de Chaillot, on va le lire autrement. Il ne s'agit pas des Allemands. Est-ce qu'il ne s'agirait pas des Arabes immigrés dans les années 30, des Ashkénazes de Roumanie et de Pologne immigrés dans les années 30? Et voilà que, par le biais de certains, il va devenir, Giraudoux, que vous aimez tant, le symbole de la France moisie, pétainiste avant l'heure. Alors, justice pour Giraudoux, André Job.
Non, mais l'invasion dans La Folle de Chaillot me fait un peu sourire. Je veux dire que les mecs en question qui sont dénoncés, comme les aigrefins du début de la pièce, de la première scène, n'ont rien de juif ni même d'étranger. Les premiers, au début de la pièce, portent des noms bien français, Jean Hippolyte Baron Thomas, Émile Durachon, et...
Bon, admettons, mais il y a quand même des textes et de Giraudoux, des textes politiques de Giraudoux que vous allez éditer dans les classiques Garnier, qui parlent de la nécessité de sélectionner l'immigration. Et ça, beaucoup ne lui pardonnent pas, à partir des années 70, d'avoir écrit ça, comme beaucoup d'autres dans les années 30.
Je pense que le problème n'est pas le fond de l'argumentation, car on n'a rien à reprendre au fond de l'argumentation, enfin pas grand-chose, au fond de l'argumentation du texte sur la France peuplée de plein pouvoir. Le problème, ce sont les images. Et c'est un texte assez abominable de ce point de vue-là, qui fait frémir aujourd'hui. Les Ashkénazes en question, Giraudoux ne dit jamais les Juifs, sont comparés à des sangsues dans un bocal, à des puces sur le chien à peine né. Mais dans l'argumentation, la race française pour Giraudoux, race au sens de population, est une race composée. Il n'y a pas que le français qui naît, il y a le français qu'on fait. Le slogan de l'extrême droite, la France aux Français, Giraudoux le commande dans ces termes, cette phrase, au lieu de m'enrichir, me dépossède. Je crois que ce qu'on peut soupçonner, c'est que Giraudoux, car le texte vient d'un article de 1935 du Figaro, prétendait répondre à Rebattet en se mobilisant pour une immigration et non pas contre une immigration. Et il a fait sans doute trop de concessions à son public.
Vous savez, c'est un hygiéniste, vous insistez beaucoup sur les textes concernant l'urbanisme de Giraudoux. Et parfois, à force d'hygiénisme, un certain nombre de mots sales reviennent à la surface. Alors, pour plus de détails, des informations contradictoires, des débats, ce grand dictionnaire Giraudoux en deux volumes que viennent de publier les éditions Honoré Champion. Merci à vous, André Job. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesco avec à la réalisation Audrey Ripouille, Fabrice Despas à la technique. Il est habitué à mon lapsus. Et demain, nous rendrons hommage au dernier speaker de la France libre qui vient de disparaître. C'est Franck Boer. Il avait 99 ans. Il n'y a plus de membres de l'équipe de la France libre au micro.